Et bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, j'aurais pu faire cette intro avec l'accent congolais, car aujourd'hui, ce podcast va être dédié à un Congolais en particulier, bien nommé Kalash criminel, qui s'est fendu d'une phrase qui m'a horripilé. Voilà, une phrase qui m'a horripilé et qui est assez symptomatique de l'ingratitude de certains ressortissants du continent qu'on appelle l'Afrique vis-à-vis du pays qu'on appelle la France, du beau et grand pays qu'on appelle la France. Alors, de quelle phrase s'agit-il ? Eh bien, j'étais en train de scroller sur Instagram quand tout d'un coup, je tombe sur une phrase de Kalash criminel, donc ouvrez les guillemets, sans l'Afrique, il n'aurait que le fromage et le vin. Voilà. Sans l'Afrique, donc nous n'aurions que le fromage et le vin. C'est la déclaration de notre ami Kalash criminel. Alors attendez, je vérifie quand même que j'ai bien, parce qu'il ne s'agit pas de diffamer et d'essayer de retranscrire la véritable phrase. Bougez pas. Je vais aller la chercher parce que je l'avais pas sous les yeux. Donc sans l'Afrique, voilà, ça, excusez-moi. Sans l'Afrique, leur seule richesse serait le fromage et le vin. Voilà. Donc sans ce que je comprends, je vais extrapoler, mais je crois comprendre de quel type de raisonnement est tirée cette phrase. Donc sans les richesses que nous pillons abondamment en Afrique, nous aurions donc juste le vin et le fromage. Alors c'est étonnant de dire juste le vin et le fromage parce que il faudrait qu'il aille faire un petit tour dans une maison viticole pour s'apercevoir que le processus de vinification est une des plus grandes expressions de civilisation qu'on puisse avoir. Et pareil pour la fromagerie. On ne fait pas des fromages en balançant du lait dans une amphore. Hein. Non, le processus pour faire un fromage est tout aussi complexe que le processus pour faire du vin. Et je crois que ces deux choses-là traduisent un très haut degré de civilisation, puisque vous savez qu'il n'y a que très peu de pays qui peuvent se targuer d'avoir plusieurs variétés de fromage, en tout cas autant que la France. Nous avons, je crois, 600 et quelques variétés de fromage, hein, 600 et quelques variétés de fromage différents. C'est pas Gouda au romarin, Gouda à la truffe noire, Gouda à l'ail. Non, ce sont des fromages qui sont issus de races de vaches différentes, qui ont des procédés de lactification ou de fermentation, je ne suis pas un spécialiste, mais qui sont très, très différents. Et en fait, non, vous goûtez un Roquefort, un Camembert, un Beaufort, un Beaujus, un Saint-Nectaire, ce sont des fromages extrêmement différents et extrêmement différenciables les uns des autres. Vous savez qu'il y a trois autres pays qui ont quelques fromages. Vous avez la France, évidemment qu'il y en a beaucoup. Vous avez l'Espagne, l'Italie et la Hollande qui sont un peu les autres pays qui sont connus pour les fromages, mais c'est très très réduit. L'Espagne, elle a le Manchego, donc qui est fait dans la région d'où je viens, à base de brebis. Vous avez les Italiens qui ont quelques variétés de fromages et qui souvent sont d'ailleurs inspirés du commerce qu'ils en faisaient avec la France. Et vous avez les Hollandais qui ont le Gouda, qui ont quelques autres fromages. Alors, il y a des pays qui ont d'autres fromages. Attention, vous avez des fromages en Croatie, vous avez des fromages en Serbie. Mais ce sont des fromages qui sont très similaires les uns aux autres. Et puis, vous avez 4, 5, allez, 6 variétés de fromages. On est très, très loin des 600 et quelques fromages français, du cru français. Donc, si vous voulez dire qu'à part le fromage et le vin, on n'a rien, déjà, c'est commettre un énorme affront au haut degré de civilisation que traduit la capacité de produire des variétés, autant de variétés de fromage et autant de variétés de vin, parce que là je parle des fromages, mais le vin, je suis désolé. Alors, à un moment, il faut goûter un vin de Bourgogne, il faut goûter un très grand cru du Bordelais, parce que même si les vins de Bordeaux, malheureusement, ont connu un petit peu une détérioration due aux exportations massives vers le marché asiatique. Il y a dans les grands crus et dans les petites maisons moins connues bordelaises de très très grands vins, le Bourgogne que moi j'adore personnellement, ne parlons pas des vins jaunes, les vins jaunes du Jura qui sont absolument délicieux, les vins vieux de 20-30 ans du Jura, c'est de la folie. Moi j'aime beaucoup le Corbière en vin de table, j'aime beaucoup les vins de Languedoc. parce qu'ils sont très tanniques. Enfin, il y a des trucs géniaux. Puis après, même dans les vins qui sont abordables, on a des vins absolument stratosphériques. Alors aujourd'hui, ben, on est beaucoup copié, donc il y a des pays qui se mettent à faire de très bons vins aussi. Hein. Les vins espagnols ont beaucoup progressé. Les vins italiens aussi. Vous avez des vins argentins, chiliens. Vous avez même des vins californiens aujourd'hui qui tiennent un petit peu la dragée haute à nos vins de table. Mais dans les très grands crus, la France reste la patronne, quoi. Hein. Donc, si vous voulez dire d'un peuple qui n'a été capable de produire que le fromage et le vin, eh ben écoute, ça fait déjà un truc de plus. En tout cas, ça fait deux trucs de plus que le Congo. Mais ça va pas être un clash du Congo parce que vous savez que je suis éternellement lié par mon ex-femme au Congo, qui est un pays et une culture que j'apprécie beaucoup, des gens que j'apprécie beaucoup. Mais je vais être obligé de remettre un petit peu l'horloge au milieu du vidage et ça va être un podcast sur le fil, parce qu'il ne s'agit pas de bêtement comme ça clasher le Congo. On va parler de certaines réalités du Congo, de ce que le Congo a de bien, mais il va quand même falloir que je fasse un petit peu d'histoire et un petit peu de sanctions pour rappeler à notre ami Kalash criminel que là ça va être violent, mais c'est un albinos en fait. Voilà. Donc il y a des intellectuels africains qui ont écrit sur le sort qui est réservé aux albinos en Afrique. Les albinos en Afrique souffrent d'une ostracisation extrêmement violente. Et c'est pas comme nous, nos bossus ou nos nains. D'accord? Parce que nous, au Moyen-Âge, les bossus et les nains, on les prenait pour faire des trucs rigolos. On les habillait, on les faisait faire une pièce de théâtre, ça nous faisait rire. D'accord? Moi, je me rappelle, à Noël, mon grand-père, il regardait un sketch avec un nain qui trébuchait sur un jambon. C'était un truc qui passait sur la télé espagnole, d'accord? C'était un nain qui trébuchait sur un jambon, ça le faisait rire. Et le mec était né en 1914, si tu veux. Donc, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'il leur faisait faire aux nains, tu vois? Bon, si en 1914, dans les années 10, un nain qui trébuchait, c'était ça le sketch, hein, c'était un nain qui courait parce qu'il était poursuivi par je sais pas qui, un mec déguisé en sanglier ou je sais pas quoi, enfin, c'était complètement irrationnel. Et le nain trébuchait sur un jambon. Un jambon, voilà, un jambon sec, un jambon de pays. Il trébuchait dessus et mon grand-père en pleurait de rire, d'accord, voilà. Et le mec était né en 1914. Ce sketch datait des années 50. Donc imaginez au Moyen-Âge, les nains. Bon, maintenant, imaginez l'Afrique. Parce qu'en fait, ce qui se rapproche le plus du Moyen-Âge, je suis désolé, quand ben, ça reste l'Afrique, en fait. D'accord ? Ou les pays musulmans, en parlant du Moyen-Âge, je vous parle le Moyen-Âge musulman, hein, pas le Moyen-Âge français. Parce que le Moyen-Âge français, c'est quand même des cathédrales, c'est Notre-Dame. Parce que ça me fait rire quand on dit « Oui, les Afghans, ils sont restés au Moyen-Âge, vous savez, enculer une chèvre, c'est pas faire la cathédrale Notre-Dame. Hein. » Faut quand même être très clair là-dessus, parce que j'entends oui, non mais attendez, c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est les enluminures, c'est les caravelles, c'est les Portugais qui font des bateaux qui sont capables de traverser le globe, si vous voulez. Quand les caravelles commencent à être conceptualisées par les Portugais, on n'est pas encore passé à la Renaissance. Hein. Les prototypes de caravelles, parce que on découvre l'Amérique, ce qui met fin. Enfin, il y a la prise de Grenade ou la découverte de l'Amérique qui met fin. Au Moyen-Âge, les caravelles, elles existaient déjà. C'est-à-dire que les Portugais avaient déjà fait des bateaux qui permettent de faire le tour du monde, d'accord ? Et on n'était pas encore à la fin du Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, c'est ça. C'est pour ça que quand on me dit, oui, l'Afghanistan, c'est Moyen-Âge, enfin, enculer des filles de 6 ans quand on n'a plus de chèvres sous la main, je crois que c'est quand même un autre degré que faire la cathédrale Notre-Dame, dont la construction a débuté au XIIIe siècle. Faut quand même comprendre ça. D'accord ? Je trouve des fois qu'on compare des choses absolument abominables au Moyen-Âge, en oubliant que certes, le Moyen-Âge a sa part de barbarie, j'en ai beaucoup parlé, mais elle a sa part de génie, si tu veux. Quand on me dit, ouais, les blédards de je sais pas quel coin, de Babel-Oued, c'est le Moyen-Âge, ben non, en fait. Non, parce qu'ils ont toujours pas pondu, les chansons de Guillaume de Machaut. Je crois pas qu'ils fabriquent des luttes pour faire des musiques médiévales, les mecs. D'accord ? Donc, il faut faire attention aussi quand on compare les choses au Moyen-Âge. Bon, bref. Mais il est vrai qu'il y a des continents et des cultures à l'heure actuelle où il y a encore des modèles qui sont très médiévaux, notamment sur la question de la seigneurie, alors qui peut être traduit par la chefferie en Afrique, la place de la femme qui est à la cuisine, je vous le rappelle. Donc, ce genre de choses, hein, si vous voulez, c'est vrai que c'est... Euh, c'est des choses qui peuvent ramener effectivement à des ambiances médiévales. Alors, donc revenons à notre ami Kalash criminel, albinos de son état. Donc je lui ai répondu à sa petite phrase comme ça lancée tel un crachat au visage des Français. Alors je vais vous expliquer la réponse que je lui ai donnée, mais on va quand même aller regarder la biographie de cet individu parce que c'est quand même important. De savoir d'où les mecs parlent. Alors attendez, je me mets sur Wikipédia, Kalash criminel. Voilà. Kalash criminel, nom de scène d'Amira Kizyamina. Amira Kizyamina. Oui, c'est comme ça que démarrent les chansons au Congo. On dit des prénoms parce qu'on a été payé 8000 euros pour le faire. Vous savez, les chansons au Congo, c'est-à-dire qu'avant de chanter, il y a toute une phase où les mecs donnent des blazes. Alors on se demande pourquoi. Parce qu'en fait, ils prennent des chèques par des mecs, en fait, pour dire leur blaze au début de la chanson. Donc en fait, vous avez le beat qui commence et tout d'un coup, il y a « Amira Kizyamina ». Et là, le mec a pris 5000 euros. Vous voyez, bon, alors, en fonction du succès du chanteur, il prend plus ou moins cher. Notre ami Inosbi Pesayo, bon, lui aussi, il dit à ton blaze au début de la chanson, il prend des énormes chèques. Alors, il est signé sur le label Def Jam. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Alors, notre ami, donc, Amira Kizyamina est née le 14 février 95 à Kinshasa, au Zaïre. Voilà. Alors, biographie. Amira Kizyamina née au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, le 14 février, il naît albinos. Il passe les premières années de sa vie à Kinshasa avant de partir pour la France afin de fuir la première guerre du Congo. Il s'installe alors avec sa famille dans le quartier de Rougemont à Sevran. Bon, alors, la première guerre du Congo, aussi appelée guerre de libération, est un conflit intervenu de fin 1996 à 1997, au terme duquel le président zaïrois Mobutu Sese Seko est chassé du pouvoir par l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Zaïre. Soutenu par des États étrangers, notamment le Rwanda et l'Ouganda, le chef rebelle Laurent Désiré Kabila devient président et change le nom du pays en République démocratique du Congo. La guerre se traduit par le début des massacres pour la population et pose les jalons de la deuxième guerre du Congo qui s'ensuit rapidement. Alors, on va faire un petit peu d'histoire. Hein. Je prends la voix de... Vous savez que je prends la voix de... Je prends la voix de notre ami Lolo Ponce. On va faire un petit peu de géographie. Mais on va faire à la fois de la géographie et de l'histoire. Alors, il faut savoir que la colonisation du Congo, il y a deux Congos. Il y a le Congo Brazzaville et il y a le Congo Kinshasa. Donc, le Congo Brazzaville, c'est le Congo qui a été administré par les Français et qui était rattaché à un grand conglomérat de pays qui étaient les pays de l'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Ouest équatoriale. Donc ça, c'est administré par les Français. Et vous avez, c'est un pays qui a été exploré et découvert, entre guillemets, par les Européens, puisque les Africains le connaissaient déjà. Mais il a été découvert aux yeux des Européens par Savonian de Brazza, qui était un Italien, un Français d'origine italienne, Brazza, qui donc est parti au Congo et qui a fait la découverte pour les Occidentaux du Congo. Et ensuite, donc, le Congo Kinshasa, donc, qui est le Grand Congo, la République démocratique du Congo, qui a été administré par un homme qui s'appelait donc Mobutu Sese Seko Kuku Gbenda Wazamba, qui était son nom complet de chef, donc Sese Seko, l'homme qui ne connaît pas la défaite et qui va de victoire en victoire, je crois que c'est un truc du style, bon bref. Voilà. Et donc, ce pays-là n'a pas été exactement une colonie comme les autres, ça a été une colonie qui était en réalité une concession privée. C'est-à-dire que le roi des Belges, qui à l'époque s'appelait Léopold, s'est vu attribuer ce pays non pas comme une espèce de terre à administrer comme colonie, mais comme une concession privée. Donc comme s'il avait acheté une mine ou une carrière avec les habitants qu'il y avait dessus. Donc Léopold, le roi Léopold a été particulièrement sévère et inhumain avec les populations autochtones du Congo, et notamment il est connu pour avoir fait couper de manière industrielle les mains des Congolais qui ne travaillaient pas suffisamment. Alors donc, il a mutilé énormément de gens, il a beaucoup marqué l'esprit des Congolais autochtones par ces massacres. Et puis surtout, c'était assez inédit et assez fou d'imaginer que le pays, le Congo, était en fait comme une marchandise et non pas comme un département, ce qui était le cas de l'Algérie française. Non, là, c'était vraiment une concession personnelle du roi Léopold. Alors, il faut savoir que le partage du royaume du Congo est en fait quelque chose d'assez décalé par rapport aux réalités des autres pays d'Afrique noire, pour la bonne et simple raison que le Congo était déjà connu au Moyen-Âge et à la Renaissance comme étant un empire. Alors c'est un empire dont les frontières ont été assez mouvantes, mais ça a été à un moment l'empire donc d'une reine qui s'appelait la reine Zinga, et puis l'empire de sa descendance après elle, qui était dirigé donc ensuite par la suite par le Makoko du Congo, qui était le nom du chef du Congo, et qui en fait regroupait énormément de pays sous le même empire, c'est-à-dire en fait une partie de l'Angola, une partie de la Zambie, une partie du Rwanda, le Congo RDC, le Congo Brazzaville, une petite partie de mémoire du Gabon et je crois le sud du Centrafrique. Donc c'était vraiment un empire du milieu de l'Afrique qui était très très puissant, qui a connu des dynasties de rois, qui était assez bien administré, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui a laissé quelques vestiges construits. Alors rien de comparable à ce qu'il y a en Europe, mais il faut quand même mentionner la cité de Grand Mozambique qu'on pourrait attribuer à cet empire-là. Alors, ça fait encore débat, évidemment, mais bon, ça, après, c'est des questions internes aux spécialistes africains, je ne vais pas me lancer là-dedans. Et si vous voulez, donc, cet empire a été petit à petit morcelé. Alors, il a d'abord été allié des Portugais, puis de l'Espagne, et ensuite il s'est vu affaibli par des guerres internes que très certainement, évidemment, les Européens ont mis à profit pour leur propre bénéfice. Mais bon, c'est ce que font tous les conquérants dès qu'ils arrivent quelque part. D'ailleurs, les unifications des empires africains se font sur le dos de tribus plus faibles. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que quand vous avez un empereur qui installe une puissance, elle se fait sur le dos et sur l'esclavage des tribus les plus minoritaires, et ce depuis la nuit des temps jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui, puisque l'Afrique continue à fonctionner de cette manière-là. C'est l'ethnie majoritaire qui se gave sur le dos des ethnies minoritaires. Bon, et donc vous avez comme ça le l'empire du Congo qui va se déliter petit à petit, qui était au début reconnu comme un empire et puis qui va finir quelque part comme une colonie, parce que il va être bradé, morcelé, il va être divisé par ces empereurs qui vont faire de mauvais choix, qui vont un peu être contraints par la puissance européenne, comme ça, de brader les miettes de leur empire jusqu'à connaître une division de cet empire entre plusieurs peuples. À l'orée du 19e siècle, donc la France récupérera le Congo Brazzaville, les Portugais récupéreront le Mozambique, l'Angola, les Anglais récupéreront, pardon, les Belges récupéreront donc via le roi Léopold la plus grosse partie de cet empire qu'est le Congo dit Kinshasa, la République démocratique du Congo. Et donc une partie, voire même le Rwanda tout entier, qui sera, lui, par contre, non pas une concession privée de Léopold, mais une colonie au même titre que les autres pays. Voilà. Voilà un peu pour vous dire l'histoire du Congo. Et donc, va se créer, si vous voulez, à un moment, un désir d'indépendance qui va traverser toute l'Afrique. Et donc, les pays vont prendre leur indépendance des pays qui les ont colonisés. Alors, qui les ont certes colonisés, mais aussi en partie développés. Ça, c'est un grand débat entre pro-colonisation et anti-colonisation, c'est-à-dire les bons côtés de la colonisation, les mauvais côtés de la colonisation. Évidemment, c'est un enchevêtrement des deux. C'est-à-dire que la colonisation a eu des aspects particulièrement barbares et déshumanisants. Tout en ayant, à certains endroits, eu des bénéfices. On va citer l'exemple de l'Algérie, n'en déplaise à nos amis algériens qui vont sauter au plafond, mais quand les Français arrivent en Algérie, il y a 7 millions d'Algériens, quand ils en partent, il y en a 22 millions, et c'est dû notamment aux campagnes massives de vaccination. Et à la fois, vous avez des régimes comme ça de sous-citoyenneté pour les individus qui sont chez eux. Puisqu'en fait, les Algériens autochtones et les Congolais autochtones et les Camerounais autochtones et tout ce que vous voulez sont chez eux en Afrique. Donc si vous en faites des sous-citoyens, vous avez beau leur construire des routes et des hôpitaux, ça pose un énorme problème. Surtout que ces routes et ces hôpitaux profitaient surtout aux colons, évidemment, même si ça avait une répercussion sur les autochtones, mais ça n'était pas fait pour le plaisir des autochtones et pour le confort des autochtones, évidemment. Voilà. Après, la colonisation, de toute façon, est un débat épineux, puisque les Africains y voient la ruine d'un Wakanda fantasmé, et les Européens y voient l'édification d'une petite Europe en Afrique, ce qui était loin d'être le cas, puisque les Africains n'étaient pas traités comme des Européens, et il y a eu énormément d'abus, il y a eu des déportations massives via l'esclavage. Donc, si vous voulez, si on veut être honnête intellectuellement, la colonisation apporte son lot de bienfaits et son lot de déstructuration, de catastrophes et de misérabilisation des autochtones. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer. J'y rentrerai peut-être à l'occasion d'une émission qui pourrait porter sur le thème en invitant des afrocentristes pour parler de tout ça. Je vais essayer d'être le plus succinct et rapide sur cet épisode pour qu'on ait... pour qu'on aille vite au centre du sujet. Donc, les pays africains prennent leur indépendance des Européens. Alors, ces indépendances font débat, puisqu'évidemment, les Européens gardent une influence. Donc, chaque fois qu'il se passe quelque chose en Afrique qui pourrait mettre la honte sur les Africains, c'est évidemment les Blancs qui sont derrière. D'ailleurs, je n'ai toujours pas d'afrocentriste qui a été capable de me répondre à la question que j'avais posée il y a 2 mois de ça, je crois, quand j'ai demandé quel conflit en Afrique n'était pas la faute des Blancs. Voilà. De me citer un conflit en Afrique qui ne soit pas la faute des Blancs. Et personne, à ce jour, n'a été capable de me citer un conflit en Afrique qui ne soit pas la faute des Blancs. Donc, j'en ai tiré la conclusion que les Africains étaient des êtres supérieurs, des êtres de lumière, quelque part. En cela, ils vont rejoindre le peuple élu que sont les Juifs dans ce côté immaculé, d'être complètement soustraits aux basses considérations guerrières qui sont d'habitude rattachées au reste de l'humanité. Voilà. Donc, si vous voulez, aucune guerre en Afrique n'est déclenchée par les Africains. Toutes les guerres qui existent en Afrique sont la faute des Blancs. Donc, c'est inédit dans l'histoire de l'être humain. Il existe des êtres humains qui n'ont pas la marque de la guerre éternelle inscrite dans leur gène. Donc, c'est à noter. Voilà. Donc, il y a peut-être une essence divine chez les Africains. Allez savoir. En tout cas, c'est le seul peuple qui soit exempt de velléité guerrière. C'est quand même assez incroyable. Moi, je vous avoue que j'ai du mal à y croire, mais écoutez, c'est ce qui semble ressortir de l'absence de la possibilité des afrocentristes de me citer un conflit qui a été voulu et fait par les Africains. Après, c'est un discours à double tranchant, parce que si on n'est responsable de rien et victime de tout, et ben ça fait de nous justement une victime éternelle, et ce n'est pas très glorieux. Voilà, si jamais on est tout le temps dans le fait de subir et jamais dans le fait de déclencher, il va se poser la question de la viabilité décisionnelle et de l'intégrité et de la capacité de l'esprit critique. Si jamais vous n'êtes jamais responsable de vos actes, vous êtes peut-être un ange, mais peut-être aussi un trisomique 21 ou un enfant. Voilà, ce sont les trois, juridiquement, les trois qualifications qui empêchent les gens d'être responsables de leurs actes. C'est leur minorité, donc ce sont des enfants. C'est leur incapacité à avoir un jugement souverain, donc ça c'est quand ce sont des handicapés mentaux. Et il faudrait rajouter donc la troisième condition qui vous empêche d'être responsable des guerres qui pourraient se déclencher, qui est le fait que vous soyez noir. Donc voilà, donc il faut être soit un enfant, soit un handicapé mental, soit un noir pour ne pas être responsable des guerres. Donc je m'adresse aux Africains, est-ce que vous avez vraiment envie de rentrer dans cette qualification-là? Est-ce que ça vous dirait pas de, par exemple, considérer qu'il est possible que vous ayez une petite possibilité de responsabilité lorsque, par exemple, je cite quelque chose au hasard, vous levez votre bras droit en tenant une machette dans la paume de votre main avec une position de la main en pronation, d'accord, et que vous l'abattez à entre 150 et 170 joules sur le crâne, le sein ou le membre d'un de vos co-religionnaires à fort taux de mélanine. Voilà. Peut-être que vous avez une responsabilité là-dedans et qu'il ne faut pas aller chercher les Belges ou les Français quand il y a une bande de Noirs qui se massacre entre voisins sans que le moindre Blanc n'intervienne avec un pistolet sur la tempe pour dire aux uns de faire ci sur les autres. Voilà. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de manipulation. Oui, mais la France a manipulé, la Belgique a manipulé. Mais putain, s'il suffit qu'on vous manipule pour vous faire faire des trucs, c'est très inquiétant sur votre niveau de libre arbitre. Voilà, c'est très, 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 très inquiétant. S'il suffit qu'on jette de l'huile sur le feu pour que ça parte en couille, c'est très, 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 très inquiétant. Voilà. Et c'est un Méditerranéen qui vous le dit, sujet à des pulsions de Méditerranéen. Moi, je fais partie de ces connards qui tapent dans les murs quand ils se disputent avec sa gonzesse, tel un énorme maghrébin. Donc, je me permets d'autant plus de vous le dire. Voilà, je suis pas un rationnel du Nord qui arrive à se mettre dans une pièce, à fermer la porte et à ne pas se disputer en jouant à la console ou en faisant un petit peu de bricolage, comme sans doute le font les Allemands ou les Luxembourgeois quand ils se disputent avec leur gonzesse. Voilà, moi, je pousse des cris, je tape dans les murs. Tel un énorme Jezairi. Voilà. Donc, si vous, les Africains, il suffit de vous dire « tue les Tutsis, s'il te plaît », et que vous le faites dans la minute, il y a un énorme problème. Et peut-être que si jamais c'est une réalité, il faut considérer que ce soit finalement pas plus mal, que ce soit d'autres personnes plus adultes qui administrent vos pays, puisque vous êtes trop malléables. Donc, il faut se rendre à l'évidence que si on vous laisse deux minutes entre vous et que ça finit par un massacre à la machette, il est peut-être plus intéressant que ce soit l'Angleterre qui dirige votre pays. Évidemment, je fais de la provocation. L'idéal serait que ce soit les Africains qui dirigent leur pays de manière souveraine. Mais ça tombe bien, c'est le cas actuellement, mais il y a des guerres de partout. Donc revenons à notre ami Kalash criminel. Donc il faut savoir qu'au Congo et dans les pays qu'il y a autour en Afrique centrale, où l'animisme est très fort, hein, voilà, il y a du christianisme, il y a de l'islam, mais il est souvent très teinté d'animisme. Puis il y a tout simplement des gens qui ne sont ni christianisés ni islamisés et qui sont de purs animistes. Alors, il y a une étude, et je vais vous citer la source, chose qui est assez rare, hein, parce que on a tendance comme ça souvent à balancer des vérités qui vont être ensuite contestées par des Africains en disant « Mais il raconte n'importe quoi, cet enculé de sale blanc !» Donc du coup, je vais vous citer une étude qui a été faite par un Africain. Donc voilà, c'est un Noir qui a écrit sur les Noirs. Donc ce monsieur s'appelle Masung Manchandi. Alors, je pense que c'est un prénom Idensi Masung Manchandi. Donc, se prénomme Les crimes rituels en Afrique. Voilà. C'est une étude qui a été faite par un Congolais, un universitaire congolais, à l'université de Perpignan en 2022. Donc, vous avez toutes les sources. Voilà. FFNNT 2022 PERP 0008. Voilà, comme ça, vous avez l'immatriculation de l'étude. Vous avez tout. Voilà, donc c'est un Africain qui parle des autres Africains, hein, des crimes rituels en Afrique et qui explique que les albinos sont traditionnellement chassés parce qu'on leur prête des pouvoirs spécifiques, tout comme en Europe, parce que les Noirs ne sont pas les seuls à faire ça avec leur minorité visible. Nous, les Européens, avons longtemps prêté des pouvoirs magiques aux nains et des pouvoirs magiques aux bossus. Il fallait toucher la bosse d'un bossu pour avoir de la chance. Il fallait, certaines fois, posséder des pénis de nains pour porter chance. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Donc, les nains, ils arrivaient dans des époques où, effectivement, on pouvait leur couper le sexe pour se porter chance. Et bien, figurez-vous qu'en Afrique aussi, il existe ce genre de pratique. Et donc, au Congo, donc d'après cette étude, je ne fais que citer l'étude de cet universitaire congolais, il semblerait que donc les albinos soient poursuivis par des sorciers dans la jungle pour donc les immobiliser, leur couper le pénis, broyer ce pénis avec des herbes magiques, donc de l'iboga gabonais et tout le reste, de l'hibiscus et je sais pas quoi, et faire des poudres qui guériraient le sida. Voilà. Il existe aussi une tradition selon laquelle commettre un viol sur une femme albinos guérirait du sida. Ça, c'est un petit cadeau que nous offre le Mozambique. Donc, merci le Mozambique pour ce genre de classique. Hein. On peut dire que le Mozambique nous a posé un African classic avec donc cette considération de viol rituel qui guérirait du sida. Alors écoutez, je suis plutôt partisan de la médecine à l'européenne, mais pourquoi pas? Je ne veux pas faire du nazisme white power. Soyons ouverts, arrêtons d'être des sales blancs de merde qui sont fermés aux coutumes du monde. Voilà, c'est comme la world music, c'est comme, si tu veux, la médecine, c'est comme quand tu allais à la Fnac et qu'il y avait des rayons, comme ça, il y avait des rayons world music. Donc, il y avait de la musique traditionnelle d'Afghanistan, il y avait de la musique traditionnelle des Indiens d'Amérique. Donc, tu mettais le CD comme ça dans le. Vous savez, il y avait des bornes d'écoute, on mettait le CD et là tu avais. Pendant une heure. Bon, mais ça, c'était donc la musique des Sioux. Après, tu pouvais mettre du Vivaldi si tu avais envie d'écouter de la musique de Blanc. Et donc là, vous avez la même chose pour la médecine. Il y a deux rayons. Il y a celui du professeur Schmidt de l'université de Vienne avec sa blouse blanche et sa Jolaine des Normariens, donc qui fait des protocoles avec des médicaments, des scanners. Et puis vous avez aussi, et il faut le respecter, bande d'enculés, de blanc de merde, il faut que vous le respectiez aussi, il y a le rayon médecine africaine où il est possible, parmi les remèdes contre le sida, donc de violer une albinos pour guérir de cette maladie que les blancs d'ailleurs n'ont toujours pas à laquelle les blancs n'ont toujours pas trouvé de remède, si vous voulez. Donc, vous êtes là, vous pérorez en tant que blanc, en tant que sale merde de blanc, à dire, ouais, nous, la médecine, ah ben alors, eh ben attendez, regardez, l'Afrique, elle le soigne, le sida. Eh ben alors, ben un zététicien vous dirait source. Il vous dirait, ben alors, prouve que le violer une albinos ne guérit pas du sida. Ah ben, vous êtes bien baisés, là, les zététiciens de merde. Les anti-zététiciens de merde. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite où on prend 100 personnes, on les fait violer 100 femmes albinos et on regarde combien on guérit du sida? Ben non. Donc, si vous voulez, voilà, pour l'instant, vous ne pouvez pas dire que ça ne marche pas. Voilà, vous êtes obligé de faire confiance à la médecine africaine, pardon, à la médecine du Mozambique. Donc voilà, alors le Congo nous propose quelque chose de peut-être dans un autre, une autre approche. Donc là, il n'y a pas la dimension du viol. Donc, écoutez, c'est déjà une progression. Il y a par contre la domination donc de trancher le pénis, j'imagine à la base, hein, près des testicules. Alors, je ne sais pas si on prend les couilles avec ou si c'est uniquement le pénis. Et donc, on le ferait sécher, on le broierait, on en ferait de la poudre pour faire des décoctions qui permettraient donc de guérir de cette maladie que les Blancs n'arrivent toujours pas à guérir, qu'on appelle le sida. Voilà. Donc, si vous voulez, ça vous embouche un coin, bande de sales racistes de merde. Les marabouts du Congo ont une solution aux maladies que même la médecine des leucodermes, comme dirait Ouria Boutelja, devant laquelle la médecine des leucodermes est malheureusement pas à la hauteur. Voilà. Donc notre ami Kalash criminel, s'il avait continué de vivre au Congo, aurait pu connaître effectivement donc une expérience un peu négative comme ça avec la médecine de son propre pays, voilà, de sa propre ethnie, de sa propre race, hein, il faut le dire, voilà, puisque ces gens-là sont très racialistes, hein, donc ils considèrent qu'il y a les blancs et les noirs, que nous sommes deux mondes différents, ce qui est sans doute très vrai, hein. Alors moi je le mets sur le compte de l'ethnie et de la culture, eux le mettent sur le compte de la race, hein, ce sont des gens profondément avec des obsessions raciales. Donc voilà, donc si notre ami Kalash criminel était né au Congo, il faut imaginer le truc. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as notre ami Kiziyama, je sais plus comment il s'appelle, il est en train de courir dans la forêt, c'est de nuit, et puis derrière, t'as un marabout. En plus, faut voir ce que c'est un Congolais. C'est pas les Sénégalais, tout ça, c'est des bestias. Hein. Les Congolais, c'est des 8. D'accord, c'est une boule posée sur une énorme boule. Hein. C'est des mecs qui ne sont pas connus pour avoir des coups. Si vous laissez que la tête est directement posée sur leurs énormes trapèzes. Donc le mec est poursuivi par un... Il est poursuivi par un marabout comme dans la jungle. C'est un sprint de roucaille. Ben oui, mais vous le savez, dans le Seigneur des Anneaux, il y a des Arabes et des Noirs. Ben les Arabes, c'est les orques et les gobelins, et puis les Noirs, c'est les Uruk-hai. Vous le savez, ben vous le savez au fond de vous. Donc il est poursuivi comme ça. Ben, ramenez-moi l'albinos. il aurait dû pas s'emmerder, Peter Jackson, et mettre direct. Allez, on assume, hein. On fait directement des. « Ramenez-moi le semi-homme !» Et là, t'as une chanson qui commence, là, de rumba congolaise. « Frodon, Saké, Mirin et Pipin, Gandalf le Gris. » Saruman. Oh, ben c'est presque ça. À un moment, il y a un Uruk-hai, il fait Saruman. On est pratiquement sur l'accent de Saruman. Saruman, mamanayo. L'Uruk-hai a deux doigts de sortir de terre comme ça, tu vois. Il sort comme ça et là, Saruman, il lui dit. Qui est ton maître? Et là, il répond, oh, Sangonini, mon maître, Ezali, Saruman. Putain, il a dérapé. On va pas se mentir. Notre ami Tolkien, il a un peu déraillé. Il s'est un peu laissé aller. Voilà. Quand il a fait les hommes et les orques, si vous voulez, il a fait les blancs et les autres. En fait, c'est vraiment un enculé, con. Saruman, en direct du Mordor. Mais putain, le pire, c'est que j'adore, là, ce que vous avez entendu, c'est Beyanga de Mbili Abel. J'adore la musique congolaise, j'adore la rumba congolaise. Mais si vous voulez, quand un Congolais de France qui aurait été une merde dans son pays, d'accord, c'est que ça aurait été un sac poubelle. Ça aurait été un sac poubelle dans son pays. Quand il crache sur son pays d'accueil, je ne le supporte pas. Moi, je ne laisse plus faire maintenant. C'est pas parce que j'aime bien la culture d'Afrique centrale, qu'il y a des trucs qui me parlent que je peux laisser faire. Moi, si vous voulez, le problème que j'ai, c'est que moi, mes grands-parents, ils sont arrivés en France, ils étaient ultra reconnaissants d'être arrivés en France, ils étaient contents comme tout d'être en France, en fait. Et pourtant, ils n'ont pas connu, parce que ça, le pire, en fait, c'est qu'ils n'ont pas connu les conditions qu'ont connues ces populations qui sont arrivées dans les années 90, puisque lui, il est arrivé dans les années 90 en France. Il y avait déjà le RSA, il y avait déjà les HLM, il y avait déjà tout le social. Je rappelle, j'en avais déjà parlé dans un podcast, je vais pas vous casser les couilles avec ça, mais je rappelle que jusqu'aux années 60, il n'y avait pas de social en France. Il n'y avait pas de HLM, donc les gens vivaient dans des taudis. Les générations d'Italiens, d'Espagnols, d'Arméniens, de tout ce que vous voulez, de Portugais, de tout ça, ils sont arrivés, ils vivaient dans des taudis, et c'est après qu'il y a eu le HLM, en fait. C'est après qu'il y a eu le HLM, donc c'est faut comprendre que, alors pas la première génération de Maghrébins, mais la deuxième génération de Maghrébins, elle est arrivée, elle a eu le cul bordé de nouilles en fait, et les Noirs pareil, ils sont arrivés dans une France où il y avait énormément de choses qui étaient mises en place pour les nouveaux arrivants, et d'ailleurs je crois pas qu'ils ont immigré dans un autre continent dans un autre pays du continent africain. Et la France n'a pas colonisé le Congo-Kinshasa. La France n'avait aucune raison de récupérer un albinos. Non, mais parce que, attendez, à un moment, voilà, le mec est albinos, en fait. Donc, il y a tous les problèmes oculaires, il y a les problèmes de peau. Bon, attends, tu nous as coûté combien en opticien, là, Kiziama? Tu nous as coûté combien, là, pour cracher sur la France? Non, parce que, si tu veux, il fallait aller en Belgique, en fait. Fallait aller au Maroc là, chez les Marocains là, puisque la Bruxelles est marocaine maintenant. Donc fallait aller chez les Marocains là, leur demander le droit d'asile avec ta fiche de camembert là, parce qu'un Congolais albinos c'est une tête d'assiette en fait, si tu veux. Donc voilà, fallait leur demander à eux. Qu'est-ce que tu fous en France en fait? Moi c'est parce que moi ça suffit deux minutes là, les discours anticoloniaux. Les mecs arrivent de pays, la France n'y a jamais foutu les pieds en fait. La France n'a jamais foutu les pieds au Congo-Kinshasa, en fait. C'est la Belgique qui a colonisé le Congo-Kinshasa. À un moment, il faut m'expliquer qu'est-ce que les mecs branlent en France, en fait. Surtout si tu as des critiques à lui adresser, en fait. Parce que ça, c'est toujours pareil. Critiquer son pays, on a le droit de le faire même quand on est un immigré. Moi, je passe mon temps, ou même un enfant ou un petit enfant d'immigré. Moi, si vous regardez bien, je passe mon temps. Le premier truc que je critique, c'est la société française. Donc des Blancs, si on racialise la question. D'accord? Mais à côté de ça, si vous voulez, je fais la part des choses et surtout, je suis pas dans une dénonciation bête et méchante de « Oh, la France, ça pue. Mama Africa, c'est génial. » À un moment, faut regarder son pays dans les yeux, frérot. Voilà. Tu regardes le Congo dans les yeux, c'est une catastrophe. Hein. D'accord? Votre président, c'est un Rwandais. Il y a vos populations, elles se font massacrer au Nord Kivu. Le mec, il est en train d'écouter Inosby dans son palais royal, là-bas, à se faire sucer par 300 gonzesses. Hein. Parce que vos présidents sont tous des gonzes qui ont 300 gonzesses. Hein. Je vous rappelle qu'Amin Dada avait 250 femmes. Et il avait pas 250 femmes. Il avait une soixantaine de femmes, hein, ou 12 femmes, je me rappelle plus le chiffre. Mais il avait une soixantaine ou plus de 100 enfants. Non, mais attendez. Et ça, il faut que ça dirige un pays. Je suis désolé, vous avez la mort contre la France pour des raisons qui n'incombent pas à la France. Moi, je vais vous dire ce qui se passe pour l'Afrique. En fait, l'Afrique, elle a été découpée en pays qui doivent être des nations. Or, la nation, c'est un concept européen. Les Africains n'avaient pas vocation naturellement à faire des nations. Ils étaient déjà familiers à la question des empires et des royaumes, puisqu'il y avait des empires et des royaumes. Il y avait l'empire Nzinga, il y avait le royaume Olof, il y avait le Dahomey, d'accord ? Il y avait un empereur au Dahomey, Béhanzin. Bon, c'était des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, qui avaient des esclaves, qui avaient des adeptes, qui avaient des armées. Ça fonctionnait comme des chefferies, ça c'est un concept qui est très africain et qui est d'ailleurs très compatible avec le royalisme à l'occidental, pas de problème. D'ailleurs, à l'époque où l'Europe était royaliste, par exemple, il faut savoir que l'Empire du Congo avait un ambassadeur à la cour d'Espagne et à la cour du Portugal. Et d'ailleurs, il a été peint à l'époque, on a un Africain qui est peint en vêtements européens parce qu'il était ambassadeur du Royaume Congo à la cour d'Espagne, puis à la cour de Portugal. Alors après, les afrocentristes se servent de ce portrait pour dire à la Renaissance, tout le monde était noir. Bon, là, il faut aller chez le médecin et se faire prescrire un truc. Mais si vous voulez, voilà, c'est une réalité. C'est la République et la démocratisation et l'industrialisation de l'Europe qui a permis la pensée coloniale. Mais moi, je suis un royaliste, je suis pas un républicain. C'est l'esprit de gauche français qui a créé le rapport qu'il y avait aux Africains par la suite. Si vous voulez, le commerce triangulaire, il démarre avec l'époque moderne. À l'époque, il y avait déjà de l'esclavage, mais il y avait de l'esclavage interafricain. Béhanzin avait des esclaves. Bon, alors après, les afrocentristes expliquent que ces esclaves étaient traités comme des individus de la famille. Bon, peut-être. Ça me paraît être un peu... ça me paraît être quand même une façon de se dédouaner assez violente. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment, il faut voir ton pays dans les yeux. Faut regarder ton pays dans les yeux, gros. Et tout ne peut pas être la faute des Blancs, en fait. Oui, les pays africains ont été... on a fait des cartes qui étaient des cartes de Mongols, mais après, il s'agit d'être résilient. Il s'agit d'être résilient. Voilà, il y a une grande catastrophe, bon, très bien, coloniale, très bien. Qu'est-ce qu'on fait par la suite de... Mais je suis désolé, regardez vos dirigeants, ils sont tous corrompus jusqu'à l'os, con. Ils ont 300 gonzesses. Ils ont 300 gonzesses. Il y a la guerre. Les Rwandais, les pauvres Tutsis qui s'étaient fait massacrer par les Hutus sont les mêmes qui font des massacres au Nord Kivu. Voilà. Et là, vous faites des concerts à Paris. Vous faites des concerts à Paris. Bon, ben, à un moment, voilà. Moi, si l'Espagne rentre en guerre avec un pays, je te garantis que je rentre en Espagne et je vais faire la guerre pour l'Espagne contre, je sais pas, c'est la Turquie qui envahit la putain d'Espagne. Moi, je vais faire la guerre en Espagne. Vous faites des concerts. Bon, mais n'en voulez pas aux Blancs. N'en voulez pas aux Blancs. Votre président, c'est un Rwandais. Le président du Congo, c'est un Rwandais. Donc, il est de mèche avec le président rwandais, qui est d'ailleurs protégé par les États-Unis. C'est une réalité. Mais je veux dire, à un moment, si l'armée congolaise n'intervient pas au Nord Kivu, c'est parce que vous avez un président qui est corrompu. Et ça, c'est pas la faute des Blancs. D'accord? Il est dans son palais présidentiel, là, avec ses chaussures croco. Hé! Hey, tonton! Oh, ma papa, Ezali, attendez, comment on dit? Ezali Makasi, je sais plus quoi là. Bon bref, là ma papa, Weston, ma papa Ezali Weston. Non mais attendez, putain vos présidents c'est des sketchs. Paul Biya il est en Suisse, bordel, les Camerounais ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus, il est obligé de leur filer des cajots de bière. Chaque Camerounais reçoit 12 bières par jour, 12 castels par jour pour pas faire la révolution. Parce qu'ils sont dirigés par un mec qui a 97 piges. Il vient de se représenter à la présidence du Cameroun. Paul Biya. Mais attendez, on est où ? On est où, 97 ans, dans sa photo d'affiche de campagne, ils ont mis une photo qui a 25 ans, où il a les cheveux noirs, alors que le mec a les cheveux gris, c'est un vieux crouton. On sait même pas s'il est vivant. À un moment, il y a peut-être un marabout, là, de je sais pas où, là, de Bangante ou de Kribi, qui est en train de lui faire des potions en Suisse pour le maintenir en vie. Le mec, c'est un putain de zombie, bordel. Et c'est lui qui est censé diriger le Cameroun. Et le Cameroun, en fait, ça fonctionne à moitié. Pourquoi ? Parce que t'as des mecs comme ça. Et c'est pareil pour le Congo. C'est pareil pour le Congo. Je suis désolé. C'est pas la faute des Blancs si ça fait 12 gosses hein, et que le budget qui devrait normalement leur amener une éducation et du riz, ça passe dans les Weston ! Et les putains de costumes roses à défiler comme ça, là, à Kinshasa. Mais c'est infernal. C'est infernal, bordel. C'est pas la faute des Blancs. Vous aimez trop la musique. Voilà, oui, c'est raciste. Oui, oui. Oui, je suis en train de dire un truc qui va vexer les Noirs. Oh, les clichés, nana. Il aime trop la fête, mais bordel. Mon mariage congolais, là, le rendez-vous, c'était à 18h30. Les gens sont arrivés à 11h. 11h! Bordel! Si ton pays, tu dois être au rendez-vous à 8h pour le développer. Non, mais ça, regardez. Dieu, demain, il fait un truc. Il prend chaque Africain d'Afrique. Il lui dit, faut qu'à 8h du soir, pas du matin, hein, faut qu'à 8h du soir, tu dois à tel endroit et l'Afrique devient le continent le plus puissant de la Terre. Vous êtes tous millionnaires. Hein. Je te jure hein, qu'il y a des Africains qui vont être capables d'arriver en retard. C'est-à-dire, Dieu vient les voir et leur dit, si tu arrives à l'heure, si tu arrives à 8h à tel endroit, tu es milliardaire et ton pays devient milliardaire, hein, d'accord, devient multibillionnaire, d'accord. Je vous garantis qu'il y a des Africains. Hé, hey, je suis arrivé en retard. Hé, hey, la rue était bouchée. Hé, hey, j'ai pas trouvé mes chaussures. Il va y avoir des trucs comme ça. Il va y avoir des trucs comme ça, je le sais. Vous pouvez pas me faire le coup à moi. J'ai connu, d'accord. On m'appelle pas négrocito pour rien, d'accord. Je les connais parce que si j'explose les Blancs sans pitié, pourquoi je le ferais pas avec les Noirs, en fait. À un moment, je connais vos petits secrets. C'est qu'à un moment, quand les rendez-vous dans les mariages, ils sont à... Non, en plus, le rendez-vous au mariage, c'était pas à 18h. Il était à 20h. Il y avait que les Blancs à 20h. Il y avait que les Blancs. Ils sont où, les Noirs? Merde. Ils sont arrivés à 11h. Alors tout le monde avait des pompes à 500 balles. Des putain, il y avait les étiquettes sur les... Non, mais ça, c'est pas vrai. C'est des gens de Brazzaville, c'est pas des Aïrois. Donc il y a le côté quand même plus élégant. Mais putain, les gens sont arrivés en retard. Ils sont arrivés en retard. En retard. Merde. Est-ce que c'est la faute des Blancs? Est-ce qu'il y a des Blancs? Est-ce qu'il y a le comité des Blancs négrophobes hein, qui paye des mecs pour aller faire des croche-pattes aux Noirs quand ils veulent arriver à l'heure quelque part? Non mais expliquez-moi, est-ce qu'il y a le gang des Blancs coalisés contre le développement noir qui viennent et qui vous disent « Attends, t'as une seule femme? Mais non, baisse-en une autre! Enfin, Mabadou, qu'est-ce que tu fais? Fais des gosses avec une telle, avec Fatoumata, avec Pinti, avec Aïssata, bordel, t'as une famille de Maliens, à la fin c'est une tribu! C'est un gang! C'est l'équipe de France! Il y a 11 enfants noirs! Merde! C'est la faute des Blancs ça? Le gang Traoré, quel Blanc est venu pour leur dire « Attends, fais ça, renverse un tel, viole un type avec une fourchette, fais n'importe quoi, mais putain, bordel! Vous êtes quoi, des marionnettes? Il y a un Blanc qui arrive, il met sa main dans votre cul, il vous fait parler, il vous fait faire des trucs de gogol! Putain, tout est la faute des Blancs, c'est infernal! Et comme il n'y a pas de remise en question, ça continue! C'est-à-dire qu'en fait, puisque tout est la faute des Blancs, mais il n'y a rien à corriger, donc dans un siècle, on en est au même point! Dans un siècle, le rendez-vous est à 8h. Hé, hey, t'atteins la colline. Hé, hey, tu t'es trompé d'adresse. Merde. Mais c'est pas la faute des Blancs, ça. Putain. Oui, les pays, la Chine. Bon, la France, elle est hors jeu en Afrique. Mais pourquoi pas. Et encore, la France, c'est Total, Énergie, Areva. Bon, c'est pas le français de base qui a pas à subir les Traoré après chez lui. Bon, bref. Donc oui, il y a de la corruption. Mais pour qu'il y ait de la corruption, il faut un corrupteur. Ça, c'est vrai. Mais il faut aussi un corrompu. Et l'Afrique en produit autant que la France produit de fromage. Chaque fois qu'il y a un camembert qui sort d'une usine en Normandie, t'as 10 corrompus qui sortent des usines à corrompus du Congo, quand. Putain. Est-ce que c'est la faute des Blancs? Dans mon ex-belle-famille, d'accord, le père adoptif de ma compagne, il avait monté un business. Écoutez, c'est un cas d'école. Là, comme ça, vous allez comprendre l'Afrique. Le mec avait acheté des boissons, il avait trouvé un moyen d'acheter des boissons pas chères en France. Et il les envoyait au Congo par bateau. Donc très bien, tu achètes les boissons en France, il y a un camionneur qui vient les récupérer au dépôt, il les amène au port de Saint-Nazaire chez les Bretons, il monte ça dans un conteneur, le bateau part de je sais pas où en Bretagne, il arrive, il fait une escale je sais pas où, en Galice, et paf, il arrive à Pointe-Noire. Il arrive sur le port de Pointe-Noire. Et c'est là que l'Afrique commence. Déjà, quand on débarque les boissons, ils font donner une partie au docker et au mec qui s'occupe de décharger au port. Parce qu'attends, il prend son bakchiche. Bon. Ensuite vient le camionneur qui doit dispatcher ses boissons. Donc lui aussi, il faut lui filer une palette. Ensuite, chaque fois qu'il arrive dans un débit de boisson, il donne les palettes et il doit donner un supplément. Parce que chaque mec qui a acheté des trucs veut, à la fin, c'est plus rentable. Il y a trop de noirs qui se sont servis. Il y avait un stock de boissons et il y a des gros doigts noirs comme ça là qui ont attrapé des canettes. Et à la fin, il n'y en a plus assez pour que ce soit rentable. Donc il a fermé boutique. Est-ce que c'est la faute des blancs? Si chaque noir de la chaîne, d'accord, il y avait le maillon faible. Non, ça c'est le truc de qui veut gagner des millions. On fait l'émission du maillon faible avec l'autre, là, avec sa fif, là. D'accord? Je sais plus quelle est la musique du maillon faible. Attendez, je vais la trouver, je vais vous décrire ce qui s'est passé. Attendez. Le maillon faible. Attendez. Générique. Attendez, le maillon faible. Générique. Attendez. Hop, bougez pas. Hop.
Voici les 9 candidats prêts à participer à l'émission d'aujourd'hui.
Les 9 candidats, c'est le Gabon, le Congo. Alors, le titre de l'émission aujourd'hui, va-t-on arriver à se développer? Va-t-on arriver? Alors, on écoute.
Les autres rentreront les mains vides après avoir été exclus.
Alors, les autres, c'est ceux qui n'ont pas accès à la corruption dans le pays, d'accord? Voilà, allez, c'est parti.
Manche après manche, chaque fois désigné comme étant les maillons faibles.
Est-ce que le pays va arriver à se retenir de se servir?
Bienvenue.
Attendez, bougez pas. Musique qui veut gagner des millions. Attendez, je suis en train de parler à YouTube, hein, deux secondes.
Musique qui veut gagner des millions.
Alors, allez, attendez, bougez pas.
Arthur, viens voir.
Ah, attendez, j'ai de la pub de merde, bougez pas, on va rigoler là. Là, on va se marrer. Attendez, deux secondes. Il faut que la pub elle passe. Je reviendrai sur notre ami Kalash criminel que j'ai atomisé avec une punchline. Mais là, pour l'instant, je voudrais qu'on s'attelle à la raison qui pousse l'Afrique à être pauvre. Alors, on écoute, c'est parti. Putain, merde, alors. Présentation des jokers. Attendez, c'est pas ça. Attendez. Non, ça c'est la présentation des jokers. Ah voilà. Le continent africain ne se développe pas. Pour les raisons suivantes. Petit A, tout le monde est corrompu jusqu'à la moelle. Petit B, les Noirs sont incapables de refuser un billet ou une canette quand ils sont sur le port de Brazzaville. Petit C, les Blancs ont créé un comité pour avoir un pistolet braqué sur la tempe de chaque Noir qui voudrait ne pas être corrompu pour le forcer à l'être. Petit D, c'est la faute des Noirs. Alors, voyons, alors attendez, laissez-moi réfléchir. Est-ce que c'est à cause de la corruption? Est-ce que c'est parce que nos présidents sont des pantins francs-maçons qui sont corrompus jusqu'à la moelle? Attendez, petit C, est-ce que c'est la faute des Noirs? Non, attendez, je vais répondre petit D, les Blancs. Putain de merde. Bon, bref. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Si l'Afrique est dans l'état où elle est, certes, c'est parce qu'il y a des opportunistes qui viennent tenter de la corrompre. Mais s'ils arrivent à le faire, c'est qu'au sein de l'Afrique, il y a des corrompus et qu'ils n'ont pas assez été combattus. Alors les Africains me répondent à chaque fois, je leur dis ça. Ouais, mais en Europe aussi, il y a des corrompus. Oui, l'Europe est remplie de corrompus, mais entre-temps, les infrastructures sont là. Le pays fonctionne plus ou moins bien parce qu'il est endetté jusqu'au dernier niveau et on connaîtra sans doute une chute vertigineuse et ce sera bien fait. Mais ce que je veux dire, c'est que être corrompu quand t'as pas encore fait les routes et les hôpitaux de ton pays et être corrompu après l'avoir fait, ben c'est différent. Ça a une incidence différente, en fait. Voilà. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, à la petite assertion de notre ami « Sans l'Afrique, leur seule richesse serait le fromage et le vin », notre ami Kalash criminel, je lui ai répondu « Sans la France, personne pour récupérer un albinos du bassin du Congo pour lui donner une carte vitale et une carrière au lieu de lui couper la bite pour faire une potion maraboutique contre le sida ». Voilà. Parce que la réalité, c'est ça. C'est ça. Donc moi, je ne supporte plus les critiques gratuites contre la France et mensongères. Hein. Avant le fromage et le vin, il y a eu la cathédrale Notre-Dame. Hein. Il y a eu des trucs merveilleux, en fait. Il y a eu le putain d'alphabet français. Il y a eu des archives. Parce que vous savez, pour critiquer la France et les Blancs, on s'appuie sur quoi ? Sur les archives. Quand les décoloniaux vous accusent de crimes, ils s'appuient sur les archives des Blancs et sur les photos qu'ont fait les Blancs. Pour ensuite vous dire que les Africains, ils n'ont jamais rien fait. Ben normal, ils n'ont pas d'archives. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est génial! Attends, t'as un continent, il marque pas les crimes qu'il a fait! Donc après, on arrive en 2025. Oui, nous avons été le Wakanda. On était purs entre nous, il n'y a jamais eu de viol. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Regarde un reportage sur les milices africaines. Quand ils arrivent en Toyota, ils sont tous déchirés. Ça viole tout ce qui bouge de 7 à 77 ans. Et après, ils veulent te faire croire que non, mais ça, c'est les Blancs! Ça, c'est les Blancs. Les Noirs n'avaient jamais d'érection pendant la guerre hein, avant que les Blancs n'arrivent en Afrique. Mais évidemment! Mais c'est bien connu! C'est bien connu, bien sûr. Les viols interethniques ont démarré après les Blancs. Mais évidemment! C'est le contact avec les Blancs qui ont poussé les Noirs à violer. Oui, bien sûr. Il suffit de regarder les yeux d'un Somalien pour comprendre qu'il n'est que lumière. Regarde, vous tapez Somalien, Basical Somalian Guy sur Google, regardez au fond de ses yeux, vous allez trouver quelque chose d'immaculé, bordel de merde. Vous sentez que le mec est d'une pureté absolue. Enfin, vous allez voir la rectitude de son regard, sa mâchoire puissante et proéminente, son front court, son visage volontaire, et vous allez voir immédiatement que cet homme est incapable d'être un pirate et un enculé de violeur si les Blancs n'étaient pas là, enfin ! Enfin ! Mais regardez le visage d'Amédie Coulibaly ! Mais le crime a été mis dans ce village, par ce visage, par les Blancs. Les Blancs, Mundele ! Hey, c'est la faute des Mundele ! Tout ce qui va mal au Congo, c'est la faute des Mundele ! Voilà, c'est la faute de nous. C'est nous, c'est les Blancs. Nous avons des super pouvoirs, nous sommes professeur Xavier. On a des X-Men au bout des doigts, comme ça on arrive à faire n'importe quoi aux Africains. Toi, ils ont un pays administré, il y a professeur Xavier Blanc qui arrive et qui fait « Faites n'importe quoi !»« Et toi, s'il te plaît, fais ci, gosse. Toi, s'il te plaît, trompe ta femme et attrape le sida. Toi, attends. Tu vois le pognon qu'on t'a donné pour faire cette route ? Ben, ne le dépense pas pour la route. Achète-toi des Weston et va payer Inosby pour qu'il fasse une chanson à ta gloire. » MP, Sayo, allez, on va écouter Inosby, on va se régaler un petit peu, on va faire un hommage à ce que le Congo produit de meilleur, parce que le Congo a une industrie. Les gens qui sont là qui disent « Oui, le Congo n'a pas d'industrie », le Congo a une industrie. Cette industrie, c'est l'industrie de la musique. Alors on va écouter ce qu'elle nous produit de meilleur. Oui, vous attendiez à l'acier, mais non, on n'en est pas là. Alors attendez, Inosby, attendez, on va écouter Inosby, MP, Sayo. Attendez. D'ailleurs, la chanson dit « Toi, tu fous rien », je crois que c'est ça le... Écoute, c'est ça. Ah, on a Secret d'Arôme, on a une pub pour les PD Blancs, avant d'écouter un peu de musique noire, attendez, bougez pas, c'est parti. Développer le pays. Ne pas gaspiller l'argent des Blancs en m'achetant des chaussures croco. Mbappé Sayo. Yopé Mbappé Sayo. Putain, qu'est-ce qu'on se régale. Dans deux siècles, on y est encore. Dans deux siècles, on y est encore. Bordel. Et ce sera pas la faute des Blancs. Mbappé Sayo. Bougez-vous le cul, réveillez-vous. Arrêtez de dire que c'est les Blancs qui ont tout fait. Vous êtes corrompus jusqu'à la moelle. On vous fout 50 euros dans le pif. Y'a tout qui saute, même Jésus-Christ. Quand, bordel. Merde. L'Espagne aussi, c'est un pays de babouins. C'est ma propre race, si j'ai aucun problème à le dire. L'Espagne, avant Franco, c'est un pays de babounes. Il y avait des brigands sur les routes, c'était infernal, les gonzesses se faisaient violer, c'était l'enfer. C'était l'Inde sans Shiva, quand bordel, avec une moustache et des taureaux. Et il y a eu Franco, il a exécuté la moitié de la population, et maintenant ça fonctionne. Alors debout les Noirs, merde. Au lieu de nous faire chier, moins de reggae et plus d'horaires. Respectez. Putain. Comment ça arrive à l'heure à vos rendez-vous, quand déjà ? Attendez, moi je connais une entreprise qui propose des formations gratuites, payées par Nicolas. Alors, Eric Tegner a préempté l'expression, donc je lui reverserai un royalty. Mais Nicolas, il paye des formations, d'accord ? Il paye des formations pour prendre ces gens-là et que ce soit gratuit. Il faut juste répondre à un rendez-vous téléphonique dont on te donne l'horaire et le jour un mois avant, si tu veux. Donc, tu as le temps de préparer ton entretien, d'accord ? Donc, l'entretien... Il est, par exemple, allez, aujourd'hui, on est le 20 juillet. Il est le 20 juillet à 15h02. À 15h, il est. 20 juillet, 15h. Putain, ça se connecte. 15 juillet, 20h. Hein. Esther Poumekende est absente. Hein. Eh ben alors ! T'avais rendez-vous avec ton destin et avec la professionnalisation et tu t'es pas pointé, con ! Tu t'es pas pointé ! Donc, il y a marqué « no show ». Parce que « no show » en anglais, c'est « ne s'est pas montré ». Tu vois ? Voilà, voilà ça qui s'est passé en fait. Il y a Nicolas, il paye une formation et t'es pas foutu de te pointer à l'heure parce que t'es en train de bouffer des chips à la banane en écoutant Inosby. Merde ! Et ça, c'est pas la faute des Blancs. Les Blancs, ils te proposent une formation, bordel. Et après, quand vous êtes ici, ça donne qu'à l'âge criminel. Il s'est converti à l'islam, bordel. C'est quoi cette mondialisation de merde? Le mec vient du bassin du Congo, il trouve des Arabes, il y a un imam qui arrive d'Arabie Saoudite, hein. Il se fout en France, il se convertit, mais qu'est-ce que c'est que ce clafoutis de merde? Putain! Et ça chie sur la France. Eh ben, va chez les Arabes! Puisque t'as pris leur religion, mais tu n'y vas pas chez les Arabes, enculé d'ingrat. Et pourquoi t'y vas pas chez les Arabes? Parce que il vaut mieux réciter la Shahada quand on a un noir de couleur blanche en France que le faire dans le pays des 14 siècles de traite négrière. Et eux aussi, ils te coupent la bite. Et pas pour faire des potions contre le sida, pour pas que tu baisses des beurettes. Parce que c'est ça leur peur. Les Gaulois, c'était que le ciel leur tombe sur la tête. Hein. Les Espagnols, c'est qu'on leur demande de se lever à 8h. Hein. Et vous, votre peur la peur la plus grande des Arabes, c'est que vous baisiez leurs gonzesses. Voilà. Donc, tu te convertis à l'islam depuis la France. Ça, c'est quand même incroyable. Tu arrives, tu chies sur ton pays d'accueil et au lieu de prendre sa religion traditionnelle, tu te tournes vers les Arabes sans aller chez eux. Parce qu'ils ont peut-être l'intelligence, quand il y a l'Afrique qui veut déverser ses poubelles, de dire « Non ! On fait du tri sélectif, nous ! On veut pas récupérer votre chiasse ! » Le roi du Maroc, c'est pas la poubelle France, en fait, tu vois. C'est quand les bennes du Congo veulent déposer leur merde, il dit « Non, 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 l'air ! Moi, je prends pas les carlouches, l'air, choukran ! Allez vider votre merde en France ! » Et c'est la République qui récupère ça ! Putain ! Un albinos! C'est comme dans Gladiator, là, quand t'as l'autre, la Proximo, il dit: tu m'as vendu des girafes sodomites! Putain, les services de l'immigration, ils se tournent vers le condo, tu m'as filé des Congolais blancs! Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça chie sur la France après, putain, alors que dans ton pays, t'aurais été un fugitif! Vous avez interdiction de chier sur la France! Interdiction! Sinon, tu rentres au pays et tu vas le développer, c'est ce que font les hommes! Si t'es pas content de la France, tu fais ce que font les hommes. Tu vas dans le pays de tes ancêtres et tu le développes. Et ta vengeance, tu l'auras comme ça. Pourquoi les Chintoques, ils nous cassent pas les couilles? Parce que quand les Blancs sont partis, ils ont attrapé leur pays par le col. Ils se sont levés à 4h30 du matin et y a pas eu de tindilindimpe, sayo. Non, y a pas eu ça. Y a pas eu ça. Y a eu de l'industrie. Y a eu du commerce. Y a eu de la rectitude morale, de la responsabilisation. Et ça finit avec la première économie mondiale pour la Corée du Sud. Qu'est-ce que vous nous faites chier? La Corée, en 1940, était plus pauvre que le Sénégal. Et aujourd'hui, ils font Squid Game pour Netflix. Avec des salariés qui dépriment parce qu'ils sont à 60K par mois et ils savent pas quoi faire avec. Arrêtez de nous faire chier! Si t'aimes pas la France, tu fais un truc viril. Tu rentres dans ton pays! Là où sont enterrés tes ancêtres. Et tu vas fortifier ta nation, bâtir des entreprises. Mais vous le faites pas! Parce que vous savez de quoi vos pays sont faits. Parce qu'au fond de vos cerveaux, vous savez de quoi sont faits vos pays. Vous le savez! Ce qui vous attend là-bas. Tu vas aller faire de l'administratif, tu vas trouver un mec face à un ventilateur en Marcel qui vient de se taper la secrétaire. Enculé! Et tu vas aller à la banque et on va rien te prêter. Parce que là-bas, un albinos avec une cagoule, c'est un clown. T'es un clown dans ton pays. T'es un clown. Putain, terreur. On va regarder comment on dit clown en lingala. Attends, on va voir si Internet arrive à nous régaler, là. Attends, bouge pas. Clown en lingala.
Voici votre traduction.
Moto alati badambala. Donc arrêtez de cracher sur la France, arrête, tu sais même pas dans quel état est la tombe de ton grand-père, hein, et tu viens faire des trucs de bonhomme. Des trucs de bonhomme. Moi, je vis à 300 mètres de la tombe de mes ancêtres. Moi, je suis parti. J'étais pas content que la France soit républicaine. Je suis parti parce que mon pays, c'est pas le cirque Pinder. Et j'ai pas honte de lui. Il n'y a aucun problème à être en France quand tu prends l'héritage français pour ton héritage. Tu n'as plus besoin d'être avec tes morts ethniques quand tu es avec tes morts d'affection civilisationnelle. Moi, je n'ai pas une goutte de sang français. Les morts français et leur héritage est le mien. Et tu redeviens un homme digne. Et là, c'est pas grave d'avoir quitté la terre de tes ancêtres. Je le répète à chaque fois, soit. Mais si tu fais le mec qui revendique sa terre de y a pas de problème à aimer le Congo quand on est français, ou aimer l'Espagne quand on est français, y a pas de problème. Mais quand tu revendiques une appartenance à un pays et que tu craches sur celui dans lequel tu es sans aller dans le pays que tu revendiques pour le développer, tu es une merde. Et vous avez pas envie qu'on vous le dise parce que ça vous fait honte. Et comme les blancs sont des pédales, hein, ils vous le disent pas. Mais moi, j'en ai rien à branler, moi. Moi, j'en ai rien à branler, je suis pas un PD de Parisien de gauche, je suis un mec de Toulouse. Tes quatre vérités, je te le dis, mon grand con. Ton pays est un shitole. Voilà pourquoi t'as pas envie d'y retourner. Et chez les Blancs, tu es bien. Tu es bien chez les Blancs. Parce que quand tu vois avec ta fif d'albinos, là, on dirait un phare dans la nuit tellement que tu fais de la lumière, t'es bien content de trouver un spécialiste qui peut traiter tes maladies. Parce que les albinos noirs en France, il n'y en avait pas. Et pourtant, on a des spécialistes qui arrivent à les prendre en charge. Merci, la France. Beau pays, merci. Merci de m'avoir accueilli, c'est ça que tu devrais dire. Merci à la France de m'avoir accueilli. Merci à la France de m'avoir donné ces opportunités. Qu'est-ce que tu serais en train de faire à Kinshasa, là ? Merde ! Faites chier tous ! Vive la France ! Son fromage, son pinard, ses cathédrales, ses médecins, sa population gentille qui accepte de prendre toutes les ordures du tiers-monde. Merci la France, bordel ! Vous allez vous foutre à genoux et la remercier. Vous allez lui téter la mamelle et lui dire merci pour ce bon lait. Vous me faites chier tous. Le lait africain, il est où? Vous tétez quelle mamelle? Tu vas mettre ta bouche en cœur, tu vas prendre une tarte dans la gueule à Kinshasa, là. Tu vas arriver pour demander ton verre de lait, tu vas prendre une tarte dans la gueule. Ils vont te traiter de sale PD de blanc, là. Parce que c'est ça que vous êtes. Vous êtes même pas des Africains, bande de merde. Il n'y a que votre peau qui témoigne que vous êtes africain. Vous êtes des banlieusards, quoi. Votre patrie, c'est Garges-lès-Gonesse. Chameliers que vous êtes. Non, vous n'êtes pas des chameliers, ça, c'est les autres. Putain. Qu'est-ce que ça m'énerve de cracher dans la soupe, bordel de merde. Tu crois que tu vas aller en Russie? Hey, je veux un passeport russe. Mais tu vas prendre un regard d'Ivan, il va te cracher à la gueule, il va même pas te répondre. Il va te dire un truc raciste en russe et tu vas repartir en charter. Vous savez où vous les demandez, vos papiers. Vous savez à qui les demander. Vous allez pas chez les Arabes. Vous prenez leur religion, vous allez pas chez les Arabes. Quel noir va demander au bougne un droit d'exister dans son pays, comme pain? Parce que vous savez que là-bas, les noirs, c'est Abou dans Aladdin. Il a même pas droit à un dialogue. Il est sur l'épaule d'un autre mec, quoi, en fait. C'est étonnant, ça. C'est étonnant de pas demander à la Chine ou à un autre pays africain. Un autre pays africain, attends, pourquoi t'es venu? Mais le Rwanda a une super économie. Ils ont la 5G partout, pourquoi t'es pas allé faire toc-toc au Rwanda et t'es parti chez les Blancs? Si tu vas chez les Blancs, la règle des Blancs, et tu respectes les Blancs, parce qu'ils sont chez eux! Même si les Juifs vous ont dit le contraire, bordel de merde! C'est pas un hôtel, la France! Jacques Attali raconte ce qu'il veut, moi je te le dis, la France c'est pas un hôtel. Tu viens ici, tu participes, tu t'y files, comme on dit dans le Sud-Ouest. Tu t'y files pour la France. Et si tu t'y files pas, t'es un traître, t'es un parasite. Il faut pas t'étonner qu'on te traite mal. Moi, mes grands-parents, ils sont arrivés, ils ont pris un camp de concentration dans la FIF. Parce que les Espagnols, quand ils sont arrivés en 1939, on pouvait pas les accueillir. Il y en a 1 million qui sont arrivés. Ben, la France, elle a fait des camps. Voilà, donc mes grands-parents, ils sont là en camp. Et alors, je leur en veux à la France? Non, je les comprends. T'as 1 million d'espingouins qui arrivent, t'as pas d'endroit où les loger, ça finit en camp, c'est comme ça. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, mon grand-père paternel? Eh bien, il est rentré immédiatement dans la résistance contre les... De toute façon, il avait pas le choix. Dans la résistance contre les nazis, on a participé à la libération de la France. Mon grand-père, il a une carte il a une carte d'ancien combattant délivrée par la France. Il s'est battu immédiatement pour le pays dans lequel il est arrivé. Qu'est-ce que tu viens me faire chier avec le fromage et le pinard? Putain de merde. Il y en a plein le cul de ça. Vous allez aimer et respecter ce pays à la hauteur de ce qu'il vous a donné. Parce que le vôtre, il vous a rien donné. Et c'est pareil pour les mahométans. Allah, chez vous, il ne vous donne pas à manger. Ton Dieu, il ne te donne pas à manger à la maison. C'est Jésus qui te donne à manger. Putain, à nous raconter les splendeurs de l'islam, incapable d'aller dans un pays arabe demander à manger. Allah, il est pingre avec ses disciples. Il est pingre. Il a du mal à sortir la bouffe. Jésus, il vous gave de HLM, d'aide, de prime pour la rentrée, de gratification. Et vous avez l'ingratitude de ne pas communier le dimanche à l'église. Alors faites pas chier. C'est Jésus et la France qui te donne à manger. Tu te convertis à l'islam et tu lui craches dessus. Traître! Traître au Congo, tu es un traître au Congo si t'es pas qu'un traître à la France. Tu as abandonné ton pays. Pourquoi t'as pas fait la guerre là-bas? Traître! Vous êtes des traîtres! Moi demain, l'Espagne éternelle, elle est en guerre avec les Turcs, avec je sais pas qui. Je viens éventrer des mecs! Pour l'amour du drapeau! Bordel de merde! Bande de traîtres! Je vous encule!